RRB, l'invité du matin.
Et nous sommes ce matin avec Philippson Bani, vulcanologue à l'IRD. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va revenir sur cette éruption au Tonga, même si le phénomène a été décrit depuis plusieurs jours maintenant. Que s'est-il passé concrètement ce week-end au Tonga ?
Alors, bonjour hein, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RRB. Oui, ce phénomène il est exceptionnel. Oui. Et de par son ampleur et surtout parce que c'est un phénomène qui a eu lieu plutôt en partie dans la mer. Et ça, on n'a pas l'habitude de voir.
Donc c'est quelque chose qui est totalement imprévisible ou il y avait des signaux d'alerte sur ce secteur ?
Ben, c'est, comme je l'avais dit, c'est les volcans qu'on a pas beaucoup travaillé dessus et souvent on travaille sur les volcans aériens et ceux-là, on les a souvent ignorés, je dirais. Et donc, je pense pas qu'il y a des moyens qui ont été mis en place suffisamment pour. Je pourrais pas m'avancer là-dessus non plus, mais c'est souvent très difficile de suivre les volcans sous-marins parce qu'il fallait des moyens un peu plus difficile, plus lourd pour voir les surveiller. Et donc, celui-là, c'est sans doute qui arrive. On l'a pas vu arriver, sans doute.
Mmh. C'est un phénomène vraiment d'ampleur auquel on a assisté ?
Oui, oui. Oui, oui, ça, c'est vraiment très, très important. La hauteur du panache, les dernières informations qu'on a montrent que le panache a atteint 30 000 mètres, quoi. Donc ça c'est très 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 important. Souvent ça reste dans la troposphère, donc en dessous de 10 000 mètres, et là ça monte assez haut. Et pour pouvoir faire remonter tout ça à cet altitude, il faut beaucoup de puissance, oui.
Donc il faut une grosse explosion.
Il faut une grosse explosion et la preuve est là, hein, on l'a entendu même jusqu'à 2000 km me semble-t-il. Et c'est impressionnant. On n'entend pas souvent des explosions à 2000 km, voyez-vous. Et celui-là en particulier, il a été entendu partout. Et l'onde de choc en particulier a été visible. Et ça a parcouru la moitié de la surface de la Terre. Et enregistré sur les stations infrasons, sans doute sur l'ensemble de la planète.
Mmh. Alors, on quantifie souvent la puissance d'un volcan avec une explosion à Hiroshima. C'est le cas, c'est ça l'indicateur. Est-ce qu'on a aujourd'hui un degré plus précis ? On parlait de 10 à des centaines de fois, une fourchette quand même assez large au niveau de l'explosion.
Oui, très large, parce qu'on n'a pas encore arrivé à estimer plus précisément l'ampleur de la puissance de l'explosion. Mais l'ordre de grandeur est sans doute là, hein, entre. Je donne les informations sur Krakatoa, qui lui a 10 000 fois celui d'Hiroshima. Donc. Mais Krakatoa, l'onde de choc a fait 7 fois le tour de la Terre, et le panache a atteint peut-être 50 000 mètres. Quoi. Donc, c'est une ordre de grandeur un peu différent, mais celui-là, il est assez important quand même.
Quelle est la périodicité de ce type de phénomène ? On les observe tous les combien de temps ?
Alors, sur celui-là. Visiblement, c'est les données qu'ils ont eues d'après les analyses des dépôts de cendres autour de ce volcan, c'est 1000 ans, visiblement. Mais 1000 ans, évidemment, on n'a pas surveillé ce volcan depuis 1000 ans, mais c'est parce qu'il y a eu des dépôts de cendres de l'événement dans le passé, qu'on a été les prélever, les analyser et dater. Et on s'est rendu compte qu'il y a 1000 ans, il y a déjà un événement similaire et en plus, pendant cette période-là, il y a eu plusieurs éruptions. Donc, des éruptions de telle ampleur, il y en a. Et apparemment, il y a d'autres papiers qu'on voit maintenant qui sortent et qui ont été publiés, qu'on ne les a pas vraiment lus dans le passé, mais on le ressort et on voit qu'à Tonga, c'est un archipel qui a beaucoup de très grosses éruptions dans le passé.
Alors, au début, on a eu du mal aussi à quantifier les dégâts sur place, parce qu'il y avait les liaisons qui étaient interrompues. Aujourd'hui encore, c'est compliqué d'estimer les dégâts sur place ?
Ben, je pense que petit à petit, on va y arriver avec. Dans ces zones-là, le moyen le plus efficace, sans doute, c'est par les images satellites, sans doute. Et là, ça va venir par petit à petit. On arrivera à estimer les dégâts, mais les premiers satellites montrent quand même qu'il y a eu quelques dégâts, même si pour l'instant, on n'a pas des informations directes du sol, mais on voit qu'il y a eu des habitations qui ont été balayées par les tsunamis.
Alors, quand on parle des dégâts, on parle souvent de bilan humain, de bilan matériel. Je suppose que pour l'écosystème aussi, c'est un bouleversement majeur, une explosion de ce type ?
Ah oui, bien sûr. Tout est bouleversé. On a vu des poissons, sans doute, ceux qui sont proches du rivage, se retrouvent sur Terre. Et puis, tout le pourtour des côtes sont complètement, sans doute, bouleversés aussi par de telles ampleurs. Oui.
Quand on pense volcan, on pense souvent aux volcans qu'on a sur Terre, qu'on peut observer assez facilement. Là, c'est une éruption sous-marine. Oui. La différence majeure, c'est évidemment que ça se passe sous l'eau, mais est-ce que ça implique des choses différentes aussi dans le phénomène ?
Ben, pas forcément. Je crois que c'est la grosse différence, c'est ça. C'est l'eau qui intervient. Donc, et comme l'eau, avec la lave qui est à très haute température, hein, qui se rapproche de 1200, très vite, il transforme une partie de l'eau en vapeur, et la vapeur, c'est le gaz, et ça donne la puissance pour une explosion telle qu'on l'a vue là. Oui.
Donc finalement, sous l'eau, ce sont des explosions en général plus fortes ?
Alors, comment je vais répondre ? Donc, il y a deux choses, c'est que si l'eau, si le volcan est très bas en profondeur, la masse d'eau apporte une pression telle qu'on n'arrive pas à créer des grosses explosions. Par contre, s'il est en partie sous l'eau et en partie dans l'air, comme on a vu là, je crois que c'est juste 100 mètres au-dessus de la surface. Et là, on peut créer des grosses éruptions parce que l'eau est possibilité d'entrer et de créer des grosses explosions.
Philippe Sonbani, est-ce qu'il y a des répliques comme les séismes ? Est-ce qu'il y a un risque de nouvelles explosions sur le secteur ?
Sur les secteurs, c'est-à-dire sur Tonga,
sur Tonga, bien sûr.
Oui, sur Tonga, il y a beaucoup de volcans dans la zone, et sans doute il y a beaucoup des volcans sous-marins, et il va y en avoir d'autres, mais la fréquence, on ne sait pas. Voilà, maintenant qu'on a eu des gros explosions tels que celui-là, ça va nous permettre de plonger un peu plus dans ces zones-là et de comprendre les fréquences des événements dans le passé, et surtout de notifier si on a eu des événements similaires dans le passé. Ah, et sûrement qu'il y en a eu dans le passé.
Ouais. Ouais, ça s'est passé à 2000 km de chez nous. Ouais. Quel impact pour la Nouvelle-Calédonie ?
Le seul impact qu'on voit, c'est le tsunami, le petit tsunami qu'on a vu. Hein. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de dégâts par rapport à ça, mais il y a eu cet effet-là. Et après, par rapport au panache qui s'est baladé au-dessus de nous, il est vraiment haut, donc peut-être que l'impact, il n'y a pas grand-chose, je pense.
Oui, c'est ce que disait l'association scalaire, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas eu de particules, a priori, dans l'air que l'on respire.
Oui.
C'est suffisamment haut.
Oui, voilà, oui, il est tellement haut, et en plus, la quantité de cendres, on n'a pas pu l'estimer, parce que il n'est pas si important que ça, et le SO2 en question, il n'est pas important, en fait. On s'attendait à plus. Et là, les premières estimations ont donné 40 000 tonnes de SO2 seulement qui sont libérées. Alors, on s'attendait à 10 fois.
Ouais.
Donc, non. Et donc, pour les effets sur le climat, non, il n'y aura peut-être pas grand-chose.
Aucun effet, oui.
À cette échelle-là, non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose.
Un effet sur les couchers de soleil, par contre.
Ah oui, ça, c'est superbe.
C'était joli à observer.
Ah oui, oui, oui. Ouais, non, c'est souvent ça. Donc, ça crée une espèce de coloration sur l'atmosphère. Et ça, c'est décrit depuis très longtemps. Et c'est souvent une marque dans l'étude des éruptions énormes dans le passé.
Alors là, on l'a vu, 2000 km de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a des risques plus proches de nous ? On sait qu'on est au plein cœur de la ceinture de feu. Est-ce qu'il y a des risques d'éruptions comme celle-ci ?
Alors, ce qui est proche de nous, eh bien, c'est l'arc du Vanuatu avec ses volcans. Et il y a des volcans sous-marins. Et il y a un volcan, maintenant avec celui-là, qui peut-être peut nous obliger à regarder de plus près ce phénomène-là. Bien, il y a eu une éruption qui a été datée vers les 1452 et avec des dépôts sur les glaces dans les pôles. Mais ça a été remis en question parce que les dépôts, l'épaisseur des dépôts autour du volcan n'est pas si énorme que ça. Mais par contre, en voyant l'ampleur de l'événement qu'il y a là, on se dit que ouais, peut-être tout est possible de toute façon. Donc, et en plus, la caldeira est un petit peu plus grand, parce que le volcan de Tonga a une calga de 4 à 5 km. Celui-là, il est plus, hein, il est 6 km. Et ça, c'est en largeur. Il est un peu plus long aussi. Donc, du coup, c'est un volcan qui a carrément pulvérisé une île et qui aujourd'hui, on a deux îles, il y a Epi et Tonga. Et donc, au milieu, on a ce caldeira-là et qui est probablement généré par une très, très grosse éruption.
Donc, comment on surveille ces volcans? Comment on pourrait améliorer la surveillance? Vous le disiez, ces volcans sous-marins, on les a surveillés très peu par le passé. Comment on peut améliorer cette surveillance et gérer mieux aussi le risque que cela représente pour la population?
Pour ce type de volcan, il faut essayer de trouver des systèmes qui permettent d'enregistrer des événements sismiques autour. Mais comme c'est tout autour, c'est de l'eau, alors il faut trouver un système qui permette de mettre des bouées ou... je crois que c'est des OBS qu'ils appellent ça. Donc, c'est des systèmes qui permettent de faire flotter le sensor de manière à capter les signaux sismiques. Et bien, ensuite, mettre un réseau un peu plus dense autour du volcan de manière à ce qu'on puisse détecter le moindre signal. Et ça, comme ça, ça permettrait de... Parce que je pense que c'est les données sismiques qui vont nous permettre de suivre... Ça a été le meilleur instrument pour suivre les événements volcaniques au sol, mais pour le volcan sous-marin, c'est pareil. Il faut juste.
Il y a toujours une petite activité sismique avant une éruption.
Ah oui, bien sûr, parce que c'est lorsque le magma remonte vers la surface, et bien la pression elle diminue et lui le volume va s'agrandir. Donc en s'agrandissant, il va pousser un peu sur les parois et ça crée ces signaux sismiques qu'on enregistre. Par les sismos. Donc il faut, mais des fois c'est pas très très grand, donc il faut des instruments assez sensibles pour pouvoir les détecter. Et donc si on en met plusieurs, on a plus de chances d'en détecter. Ouais.
Est-ce qu'il y a une bonne coopération régionale sur ces questions scientifiques, mais aussi de risques?
Il y a eu des tentations, il y a eu des réseaux en place, donc il faut les améliorer et permettre sans doute les densifier. Et au vu de ce qui s'est passé, je crois qu'on peut appeler à densifier ces systèmes et surtout travailler un peu en réseau pour mieux suivre. Évidemment, individuellement, sur chaque volcan ou chaque pays, c'est un peu limite. Si on peut mutualiser les moyens et surveiller efficacement les volcans, ce serait idéal, puisque évidemment, l'impact, finalement, ne toucherait pas... Celui de Tonga, peut-être que ça toucherait... je ne sais pas quelle est l'ampleur actuelle. Mais on peut imaginer que des volcans sur de telle ampleur, proches de chez nous, ça peut nous arriver.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe Sonbani, vulcanologue à l'IRD, d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir invité.